France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Pascal Baudin, Emmanuel Dupuis et Olivier Dehaye. Voici la quatrième émission de notre série consacrée au ballet de l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, nous évoquerons la belle époque à l'Opéra de Paris avec, en 1870, Coppelia ou La fille aux yeux d'émail, un ballet sur une musique de Léo Delibes, chorégraphie d'Arthur de Saint-Léon, sur un livret de Charles Nuité. Coppelia, nous voici la plus célèbre page, interprétée par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par André Cluytens.
Thank you.
Le vieux Coppelius est un fabricant d'automates et il souhaite donner une âme à sa dernière création, la poupée Coppelia, une poupée mécanique dont le jeune Franz tombe amoureux en la voyant à travers la fenêtre. Mais Svaninda, la fiancée de Franz, ne l'entend pas de cette oreille et elle le suit dans l'atelier de Cornelius. Et fort heureusement, car le dit Cornelius essaie d'endormir Franz en l'enivrant pour lui voler son âme et la donner à Coppelia. Alors Svaninda détruit Coppelia et s'enfuit avec Franz. Voilà en quelques mots résumé l'intrigue que Charles Nuitée avait imaginée pour ce ballet créé à l'Opéra de Paris sur une musique de Léo Delibes, dont cette célèbre mazurka, la mazurka de Coppelia de Léo Delibes, joué par l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par André Cluytens. La création avait eu lieu le 25 mai 1870, quelques semaines avant l'effondrement du Second Empire de Napoléon III. Nous allons évoquer donc aujourd'hui la page suivante dans l'histoire de France, en suivant les ballets de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire la Belle Époque, avec Sylvia du même Léo Delibes, le Cid de Massenet ou encore les Deux Pigeons d'André Messager. Nous allons rester encore quelques instants dans ce Second Empire avec une partition qui a marqué et les esprits en 1867, c'est Don Carlos de Giuseppe Verdi, grand opéra à la française et en français, donc Don Carlos, à ne pas confondre avec la version italienne Don Carlo. Don Carlos sur un livret de Joseph Méry et Camille Dulocle, pour lequel Verdi a dû se soumettre aux règles de la grande boutique de l'Opéra de Paris, à savoir intégrer un ballet. Ce sera le cas au troisième acte avec ce qu'on appelle le ballet de la reine ou la Peregrina, une merveilleuse partition que voici interprétée par l'orchestre du maître Metropolitan Opera de New York, dirigé par James Levine.
Thank you.
La Peregrina, autrement dit le ballet de la reine que Giuseppe Verdi avait inclus en 1867 à son opéra Don Carlos, dans le troisième acte de ce grand chef-d'œuvre. Ici, c'était l'orchestre du Metropolitan Opera de New York dirigé par James Levine que nous entendions.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et dans cette petite histoire des créations à l'Opéra de Paris, dans les ballets, nous voici maintenant sous la Troisième République. Très exactement, en 1876, le président de la République française s'appelle Patrice de MacMahon, le président du Conseil, c'est Jules Dufort, et le 14 juin 1876, l'Opéra de Paris, désormais situé au Palais Garnier, présente un nouveau ballet de Léo Delibes, qui était le compositeur de La Source qu'on écoutait hier, le compositeur de Coppelia qui ouvrait cette émission. Léo Delibes qui compose un nouveau ballet en trois actes sur un argument assez médiocre d'ailleurs de messieurs Jules Barbier et Jacques de Rénac. Il s'agit de Sylvia ou la nymphe de Diane, d'après un poème du Tasse appelé Aminta. Et c'est Louis Mérante qu'on évoquait hier, grand danseur et maître de ballet qui réglait la chorégraphie. Mais ce spectacle, cette chorégraphie est écrasée par un décor et des costumes trop somptueux. Donc l'œuvre n'obtient pas le succès escompté. Heureusement, la musique de Delibes va rester au répertoire des orchestres et puis au répertoire des danseurs, en particulier grâce au chorégraphe Frédéric Ashton au milieu du XXe siècle. Ashton qui résume ainsi l'intrigue de ce ballet. Un homme aime une femme, la femme est capturée par un méchant homme, la femme est rendue à l'homme par Dieu, point. Voilà, peut-être que ça suffit. Et ce qu'il faut surtout, c'est écouter cette musique et notamment ces célèbres pizzicati. C'est l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermé que voici dans un extrait de Sylvia de Léo Delibes. L'orchestre de la Suisse romande était dirigé par Ernest Ansermet dans cet extrait de Sylvia de Léo Delibes, prélude et les chasseresses, intermezzo, valse lente, pizzicati, c'est la partie la plus célèbre de ce ballet, et à l'instant marche et cortège de Bacchus. France Musique, 14h12, et nous explorons les quelques ballets qui ont été créés à l'Opéra de Paris pendant cette belle époque, en tout cas pendant le début de la Troisième République, et nous voici en 1885 avec une page immortelle de la littérature française. Mais deux rois, tes captifs, feront ta récompense. Ils t'ont nommé tous deux leur Cid en ma présence. Puisque Cid en leur langue est autant que seigneur, je ne t'envierai pas ce beau titre d'honneur. Sois désormais le Cid, qu'à ce grand nom tout cède, qu'il comble d'épouvante et grenade et tolède, et qu'il marque à tous ceux qui vivent sous mes lois, et ce que tu me vaux, et ce que je te dois. C'est à la troisième scène du quatrième acte du Cid de Corneille que s'exprime ainsi Don Fernand. Et le 30 novembre 1885, l'Opéra de Paris accueille la création d'un opéra de Jules Massenet intitulé Le Cid, dont les librettistes s'inspirent de Corneille, en citant également quelques-uns de ces immortels alexandrins. La compagnie de ballet de l'Opéra de Paris est également sollicitée. Comme nous allons l'entendre, c'est au troisième acte que se déroule un ballet au camp du Cid, juste avant la bataille. L'Académie de Saint-Martin-des-Champs, Saint Martin in the Fields, est ici dirigée par Neville Mariner dans cette suite de ballets très espagnols, avec tour à tour castillane, andalouse, aragonaise, aubade, catalane et madrilène.
Thank you.
lait. Nous avons notre ration de castagnettes pour la journée avec cette partition de Jules Massenet, un extrait du Cid. C'était bien sûr le ballet de cette opéra créée à l'Opéra de Paris avec castillane, andalouse, aragonaise, aubade, catalane et l'instant madrilène par l'Academy of St. Martin in the Fields dirigée par Neville Mariner.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Je citais tout à l'heure le danseur Frédéric Ashton qui, grâce à de nouvelles chorégraphies, avait ressuscité au milieu du XXe siècle beaucoup de partitions du répertoire comme Sylvia de Léo Delibes ou comme Les Deux Pigeons d'André Messager, un ballet qui avait été créé à l'Opéra de Paris en 1886. André Messager dirigera plus tard l'Opéra de Paris entre 1908 et 1914 avec Lémistin Broussant. Mais Messager s'était d'abord fait connaître comme compositeur, compositeur d'opérette avec Véronique et en premier compositeur de musique de ballet pour les Folies Bergères comme Fleurs d'Oranger, Les Vins de France ou autres Mignons et Vilains. Il fait donc son entrée à l'Opéra de Paris avec ses deux pigeons qui s'inspirent d'une célèbre fable de La Fontaine. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux. Non pas pour vous, cruel, au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Malgré cette mise en garde, ce pigeon voyageur partira à l'aventure, mais subira le vent, les pièges des hommes, la voracité des rapaces et la cruauté des enfants, avant de revenir au foyer pour écouter la morale de la fable, une fable qui a inspiré les librettistes de André Messager pour ce ballet Les Deux Pigeons, dont voici un extrait avec l'orchestre de l'Opéra National du Pays de Galles, dirigé par Richard Bonning.
Thank you.
en 1886 pour le ballet d'André Messager, Les Deux Pigeons, dont nous écoutions un extrait. Le poète Henri de Régnier avait écrit un livret qui s'inspirait de la fable éponyme de La Fontaine. En la transposant en Grèce au XVIIIe siècle, les deux pigeons étant les inséparables Gourouli et Pépio, dont le village est traversé par une troupe de tziganes, d'où la musique qu'on vient d'entendre. C'était l'entrée des tziganes, précédée de l'entrée de Mikala et l'entrée de Pépio, l'orchestre de l'Opéra National du Pays de Galles, dirigé par Richard Bonning dans cette partition d'André Messager. Richard Bonning qui a été l'un des plus grands serviteurs de la musique de ballet, que ce soit en concert ou au disque. Et nous arrivions bientôt au terme de cette quatrième émission sur les grandes partitions chorégraphiques de l'Opéra de Paris, avec en 1894 la création de Thaïs de Jules Massenet sur un livret de Louis Gallet qui s'inspirait d'un roman d'Anatole France. Thaïs, c'est cette belle courtisane d'Alexandrie, prêtresse de Vénus, qui se convertit au christianisme après avoir discuté avec le moine Athanaël. Elle choisit de se retirer dans un couvent où elle meurt, tandis que le dit Athanaël découvre ses pulsions charnelles à la vue de Thaïs et s'écarte au contraire de la foi. Tout cela laisse songeur et nous invite même à la méditation de Thaïs, bien sûr, qui a accompagné de nombreuses chorégraphies que voici jouées par un des plus grands archers du XXe siècle, celui de Michael Rabin.
Thank you.
Le violoniste américain Michael Rabin était accompagné par l'orchestre symphonique du Hollywood Bowl dirigé par Félix Slatkin dans cette méditation de Thaïs de Jules Massenet que dans le jargon des violonistes on surnomme parfois la lévitation du maïs. Bonjour Lionel Esparza.
Même à France Musique on l'appelle parfois comme ça. Bonjour François-Xavier Chomchak. Dites-moi, demain on termine la semaine ballet par un grand moment de l'Opéra de Paris.
Oui, avec le mandat de Jacques Rouchet, oui. 1914-1945 et des artistes, des compositeurs qui écrivent pour le ballet de l'Opéra de Paris, s'appelle Stravinsky, Ravel, Pierre-Ney, Roussel ou encore Francis Poulenc.
Eh bien, ce sera demain dans les Arabesques dès 13h30. À demain, François-Xavier.
À réécouter sur francemusique.fr.